Alors les amis, Boker Tov, Shavua Tov, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et nous avons commencé la semaine dernière l'univers des Rishonim. L'univers des Rishonim, on a parlé de Rabbeinu Gershom Meor HaGolah, on a parlé de Rabbi Shmuel HaNagid. On a essayé de faire un petit peu la part des choses entre Ashkenazim et Sfaradim. Et donc aujourd'hui, on va parler des Ashkénazes. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, on est très, très raciste. Et aujourd'hui, on parle que des Ashkénazes. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on parlera que des Séfarades. Comme ça, tout le monde sera content. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une période de l'histoire qui est extrêmement difficile pour nous, mais d'un autre côté, qui a vu naître, j'allais dire l'essentiel de notre connexion avec la compréhension de la Torah. Donc c'est très très paradoxal parce que d'un côté, c'est une période terrible et on va le voir dans 2 secondes. Et de l'autre côté, ça a donné des sens à des gens extraordinaires. Alors de quoi on parle? On parle évidemment du fin du 10e et du 11e siècle. Fin du 10e siècle et 11e siècle. Alors, de quoi on est en train de parler? On va faire un tout petit récap de ce qui se passe au niveau historique dans le monde pour que vous compreniez en quoi ça va impacter le peuple juif et l'enseignement de la Kabbalah. Au 11e siècle, on va dire à la fin du 10e siècle, c'est très tendu dans le monde entre le monde musulman et le monde chrétien. Pourquoi? Eh bien, parce que les musulmans sont dominateurs de tout l'Orient, et donc, eh ben, il faut que le monde chrétien, qui jusqu'à présent dominait, jusqu'au 8e siècle, dominait le monde, eh ben maintenant, il doit se calmer un petit peu. Mais on va dire que jusqu'à la fin du 10e siècle, ça se passe pas trop mal, dans le sens où, eh bien, on permet les pèlerinages de chrétiens en Israël. Et donc, si vous voulez, eh bien, il y a une espèce de statu quo qui se met en place. Au XIe siècle, les choses vont changer. Il va y avoir un événement qui va faire que tout va changer. Tout d'un coup, le monde musulman interdit l'accès des pèlerins à Jérusalem. Enfin, en Israël de manière générale et surtout à Jérusalem. Et ça, eh bien, ça va créer un effet énorme, énorme dans le monde européen, parce que ben, la grande question est de savoir est-ce qu'on laisse ça sans réaction ou pas? En fait, l'histoire commence en 1071, les amis. En 1071, ce sont les Seldjoukides. Al-Seldjoukim en hébreu, qui domine le monde du Proche-Orient. Et on va tout simplement décider d'empêcher les chrétiens d'arriver. Et là, il va y avoir une grande décision qui va être prise 10 ans plus tard, en 1095, à Clermont. Oui, je parle de Clermont-Ferrand, bien sûr, où il va y avoir une grande discussion chez les chrétiens de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et le pape de cette époque-là, qui s'appelle Urbain II, eh bien, c'est lui qui va lancer l'idée de la croisade. Maintenant, comprenez-moi bien, l'idée de la croisade, elle n'est pas uniquement pour des raisons religieuses. Il y a aussi un autre problème. Il y a un autre problème, c'est qu'en Europe, il y a beaucoup trop de chevaliers. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont des terres et il y a beaucoup trop de personnes qui donc sapent l'autorité du roi et l'autorité du pape. Donc, on va les envoyer là-bas dans l'espoir qu'il y en a plein qui ne reviennent pas. Et pas que forcément qu'ils vont tous mourir, mais ils vont rester là-bas et devenir des seigneurs là-bas. Résultat des courses, on ne se rend pas compte à quel point l'appel des croisades est entendu. Alors, il y aura d'abord une petite croisade que personne ne connaît, qui est la croisade des paysans. C'est les mecs qui étaient à l'église quand le pape il a parlé et ils se sont chauffés. mais bon, ils se sont fait massacrer. Et finalement, se prépare la croisade des seigneurs, dirigée par un Français qui s'appelle Godefroy de Bouillon. Et donc, la première croisade commence en 1096. Et là, vous allez me dire, mais on est dans un cours de l'histoire de la Kabbalah. Pourquoi il est en train de me faire un historique de la première croisade? Eh bien, simplement parce que, en filigrane de tout ça, eh bien, le monde juif comprend très bien que ça va les impacter énormément. Parce qu'à partir du moment où le monde chrétien se réveille, ça ne va pas être que contre les musulmans. Et le monde chrétien se réveille et effectivement va au passage massacrer tout ce qu'il peut trouver de juifs sur la route. Et il va y avoir le massacre des communautés de Choum. Alors Choum, rien à voir avec l'ail, mais ce sont les initiales de Speirza, Magensa, Wewermaitza, les communautés de la vallée du Rhin, de Worms particulièrement, qui était la plus grande de ces communautés, qui vont être complètement décimées. Les Ashkenazim, jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat, vont dire la tfila de El Malé Rachamim, de Avarachamim, Avarachamim, où on vient rappeler la grandeur de ces juifs-là qui n'ont pas accepté la conversion et qui se sont fait massacrer pour la Emouna du peuple juif. Dans cette ambiance-là, eh bien, va naître un personnage iconique, un personnage fantastique, un personnage qui est de très très loin l'un de ceux qui va avoir la plus grande influence sur le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Je veux parler évidemment de Rabbi Shlomo Yitzraki. Eh oui, plus connu évidemment sous son nom Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzraki, qui naît en 1040 et il mourra en 1105, à 65 ans. Les amis, mais qui est Rashi? Qui est Rashi? Quelle est son influence dans le peuple juif? Pourquoi a-t-il une place si prépondérale dans tout ce qui est l'étude de la Torah? Et est-ce que Rashi était un Mekoubal? Est-ce que Rashi était un kabbaliste? Alors, allons-y. Rabbi Shlomo Yitzraki, d'abord, on va tout de suite dire les choses, n'a jamais inventé l'écriture Rashi. Voilà, que les choses soient claires, lorsque Rashi a écrit son commentaire de la Torah, c'était en écriture normale. L'écriture qu'on appelle aujourd'hui Ktav Rashi, l'écriture Rashi, est venue plus tard et est venue d'Afka d'Espagne. Donc rien à voir avec Rashi. Mais bon, c'est comme ça. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzraki, va avoir une influence fondamentale. Pourquoi? Alors d'abord, parce que la quantité de travail qu'il a fourni est absolument pharaonique. On parle quand même de quelqu'un qui a réussi à commenter toute la Torah, tout le Tanakh, mis à part Divrei Hayamim, on sait qu'il a commenté Divrei Hayamim, mais on ne l'a pas retrouvé. C'est-à-dire que le commentaire Rashi qu'on a sur Divrei Hayamim, ce n'est pas Rashi. Il y a même des fois où, dans Divrei Hayamim, il cite Rashi, le commentaire de Rashi. Donc, ce n'est pas Rashi, mais on sait que Rashi a commenté Divrei Hayamim, mais on ne l'a pas retrouvé. Donc, il a commenté tout le Tanakh et il a commenté tout le Talmud. Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone. Mais est-ce que c'est simplement le fait qu'il ait eu une grosse masse de travail qui va faire qu'on a donné à Rashi une place prépondérale? Eh bien, pas du tout. Rashi a une façon particulière de comprendre la Torah. Alors que tous les autres Chachamim de son époque, avant lui et après lui, vont expliquer la Torah selon leur façon de la comprendre, mais en adéquation avec l'humeur et l'ambiance de l'époque et de l'endroit où ils vivent, et ça se ressent très profondément chez le Rambam, Rashi va donner une explication juive aux juives au texte. Et ça se voit, par exemple, dans le premier Rashi de la Torah. Nous dit Rashi, le deuxième Rashi sera de la Torah, « En amikra haze omer, el adorsheni kemoshe darshu chazal. » C'est que Rashi nous dit, tu veux comprendre la Torah ? Pour cela, il faut s'inscrire dans la tradition juive dans toutes ces générations. C'est-à-dire que la Torah ne peut être comprise pour Rashi que par un prisme juif aux juifs. Et en cela, il diffère de tous les commentateurs halachiques, puisque la halacha, elle est fondamentalement empreinte de l'endroit et du moment. Mais Rashi, lui, nous dit, la Torah, il faut la comprendre avec les yeux d'un juif. Et un juif, c'est quelqu'un qui a l'histoire juive derrière lui. Vous comprenez ? Donc ça, c'est quelque chose qui le fait différer de tous les autres. La première chose. La deuxième grande différence de Rashi, c'est que Rashi va être le dernier à utiliser le sod à l'intérieur du pshat. Quand vous prenez un rabbin comme le Ramban, on commencera à évoquer certainement la semaine prochaine. Quand vous prenez un rabbin comme le Ramban, dans son commentaire de la Torah, va très souvent dire « Lefi pshuto 1, 2, 3, 4, 5 aval al derech haemet 1, 2, 3, 4, 5 » C'est-à-dire que je te donne le pshat et après je te donne l'enseignement de la Kabbalah. Rashi ne fait pas ça. Le pshat de Rashi, c'est le sod. C'est ce qu'il faut comprendre d'après le sod. Alors comprenez-moi bien. Le pshat de Rashi n'est pas le pshat. Ou du moins, n'est pas ce que nous on entend le pshat. Lorsque nous, on entend le mot « pshat », on entend le sens littéral. Seulement pour Rashi, le sens littéral, ce n'est pas le pshat, mais c'est ce qu'il appelle « mashma'o ». Et des fois, Rashi va nous dire « pshuto ke mashma'o ». Prenez un exemple. Il y a marqué dans la Torah « aïn » Tachat Aïn. Œil pour œil. Rashi nous dit qu'il faut quoi ? Donner de l'argent. Ça veut dire que Mashmao de œil pour œil, ça veut dire tu m'as enlevé l'œil, je t'enlève l'œil. Mais pour Rashi, Pshuto, c'est l'argent. Et d'où il apprend ça ? De Torah Tasson. D'accord ? Des fois, les deux vont ensemble. Et souvent, Rashi va nous dire « Ou midrashot arbe yesh v'ani lo bati ela lefaresh pshuto shel mikra. » Il y a beaucoup de midrashim, mais moi, j'ai décidé d'amener sur ce sujet-là le premier et le septième, pas les autres. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de t'enseigner tout ce qui a été dit, mais c'est de t'enseigner ce que le sod de la Torah veut que tu comprennes maintenant. Et des fois même, Rashi, grâce au sod, va nous dire « pour l'instant, tu ne peux pas comprendre ». Pas que tu ne peux pas comprendre, mais pour l'instant, tu ne peux pas comprendre. Par exemple, on va nous dire dans la Torah que Rivka, il aime Yaakov ve'Esav. Que Rivka est la mère de Yaakov ve'Esav. Maintenant, on nous raconte ça à la fin de l'histoire de Yaakov ve'Esav. On le sait que Rivka est la maman de Yaakov ve'Esav. On l'a lu dans le début de la paracha de Toldot. Donc Rashi, lorsqu'on nous dit ça, à la fin de l'histoire, que Rivka aime Yaakov ve'Esav, Rashi nous dit Eini yodea ma melamdenu. Sauf que Ben, n'importe quel enfant, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que Rivka est la mère de Yaakov et Esav. Sauf que Rashi nous dit, oui, mais bien sûr, je sais ça. Mais tu sais ce que ça veut dire de dire que Rivka est la mère de Yaakov et Esav? Ça veut dire qu'il y a une origine commune à Yaakov et Esav? Ah ben très bien. Mais au XIe siècle, face à la croisade, je ne peux pas dire qu'il y ait une origine commune entre le christianisme et le judaïsme. Et ça, c'est l'enseignement de la Kabbalah qui va m'enseigner ça. Que Esav, c'est le christianisme. Il y a une autre dimension dans Rashi qu'on doit comprendre. Très souvent, Rashi dit des trucs qui sont d'une évidence évidente. Et tu te dis, mais franchement, pourquoi il a gaspillé de l'encre pour écrire ça? Eh bien, grand principe, nous avons, lorsque Rashi dit quelque chose de très simple, c'est que c'est là que c'est le plus profond. Prenons un exemple. Vous avez peut-être lu la paracha qu'on a lue hier. À la Torah, paracha de Vayechi. Vous connaissez l'histoire. Yaakov n'a pas envie d'être enterré en Égypte. Il a envie d'être enterré en Eretz Kenaan, Merat Amarpela. Bon, jusque-là, tout va bien. Il vient voir Yosef et il lui demande « Ne m'enterre pas en Égypte. » Jusque-là, tout va bien. Et moi, je vous pose la question avant Rashi. Pourquoi il a été demandé à Yosef? Vous avez le droit, de manière très furtive, d'allumer vos micros pour me répondre. Pourquoi il a demandé à Yosef de l'enterrer en Égypte, de ne pas l'enterrer en Égypte, c'est ça?
Parce qu'il est le chef de l'Égypte.
Zépachout Kolkar. Qui peut intercéder en sa faveur? Ben, c'est Yosef. Yosef, c'est le vice-roi. Zépachout. Rashi nous dit pourquoi il a été demandé à Yosef? Ki beyado aya la asot. Ben oui, mais c'est ce que vous m'avez dit. Je n'ai pas besoin de Rashi. Sauf que Rashi nous dit, non, tu n'as pas compris. Les filles aya adout. Beyadmi ayecholet la asot. D'après le judaïsme, qui est celui qui peut faire les choses? C'est qui? Eh oui, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Rashi nous dit, pourquoi il a été voir Yosef? Parce que à ce moment-là, c'est qui? Où est-ce qu'il se trouve Dieu? C'est Yosef. Lama, parce que Sefer HaZohar nous explique à Avot et Mamerkava que les patriarches sont le trône céleste. Qu'à l'époque d'Abraham, c'est Abraham qui dévoile la Kadosh Baruch Hu, qu'à l'époque de Yitzhak, c'est Yitzhak, Yaakov, et maintenant c'est Yosef. Et que donc, c'est pour ça qu'on nous dit juste après que Yaakov s'est renforcé, Vaishtachu, et il s'est prosterné à la Rosh Amita. Et nous dit Rashi, oui, il s'est tourné vers la Shrina, c'est-à-dire vers Yosef. Donc quand il nous a dit, pourquoi il a demandé à Yosef? Parce que c'était lui qui pouvait le faire, il ne parlait pas de Yosef. Il parlait de Dieu. Qui, pour l'instant, se dévoile et c'est Yosef. Donc, la guéonoute de Rashi, le fait que Rashi va devenir le commentateur phare, que tu ne peux pas étudier la Torah sans Rashi. Ken. Vaishtachu, c'est Yaakov. Ce n'est pas Yosef. Donc, pourquoi est-ce que Rashi est tellement central à tel point que tu ne peux pas étudier la Torah sans Rashi? Parce que Rashi est celui qui va t'expliquer comment comprendre avec un œil juif attaché à la prophétie, comment comprendre la Torah. Rashi a mis l'essentiel de sa force dans le commentaire de la Torah. Parce qu'à l'époque de Rashi, ce n'est pas encore mal vu que d'étudier la Torah. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu quelqu'un qui étudie Chumash Rashi. Ah bah oui, quand tu vas dans une yeshiva et que tu vois un mec étudier Chumash Rashi, ah, ça veut dire que c'est un mec qui n'est pas très intelligent. Hein, s'il était intelligent, il étudierait un commentaire du Ritva sur la Gemara. Mais étudier le Chumash Rashi, c'est cal. C'est ce qu'on fait au CP. Alors qu'en vérité, il faut beaucoup plus de profondeur pour comprendre Rashi à la Torah que pour comprendre Rashi à la Gemara. Comprendre Rashi à la Gemara, c'est me od cal. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, hein, mais c'est me od cal. Pourquoi ? Parce que quel outil il faut pour comprendre Rashi sur la Gemara ? Il faut un esprit, il faut une intelligence, il faut un sechel. Alors c'est vrai que Rashi était plus intelligent que moi, mais j'ai le même outil que lui. Après, j'utilise moins bien que lui, ça c'est un autre problème. Mais j'ai le même outil que lui. Alors que lorsque je veux comprendre le Rashi à la Torah, je dois comprendre la névoie telle que Rashi l'a compris. Je dois m'inscrire dans le dévoilement prophétique et ce qu'il en reste, à savoir l'enseignement du Sod, pour comprendre ce que Rashi veut. Et c'est pour ça que, vous savez, on l'a déjà dit, toute la Kabbalah, elle est tournée vers Eretz Israël. Quel est le premier enseignement de Rashi de la Torah ? N'est-ce pas aussi un rappel du refus de l'exil et du risque de penser que l'Égypte pourrait... pourrait être la terre pour la Shekhina ? Non ? Je n'ai pas compris. Oui, c'est le fait que tu parles du fait que Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte. Bien sûr. Mais pourquoi c'est pas la, là, on ne s'est pas posé la question pourquoi Yaakov demande à ne pas être enterré en Égypte. On s'est posé la question pourquoi il a demandé à Yosef. Le Rashi Ayaruach HaKodesh et Tselmi Oulamad. Alors, Rashi, effectivement, avait Ruach HaKodesh. Alors, je n'ai pas dit que Rashi était prophète, mais il est celui qui réunit l'enseignement, les restes de l'enseignement prophétique au travers de Torah ta Kabbalah. Maintenant, Mimi ou Lamad, bah ça on a dit déjà. On a dit la semaine dernière. Ah les gars, il faut suivre. Il est, dans la fin de sa vie, l'élève de Rabbeinu Gershom Me'or Agola, on avait déjà expliqué, et on a dit également qu'il a étudié chez son père, Rabbi Yitzhak Ayalchi. Il a eu d'autres rabbanim qui ont un petit peu qui l'ont un peu aidé, mais Begadol, c'est son père Rabbi Yitzhak Ayarchi et Rabbeinu Gershom Meor Agola. C'est-à-dire, donc Rashi, son premier enseignement va être de dire que toute la Torah est là pour expliquer la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël. Vous comprenez bien que ce n'est pas un rabbin de Halakha qui pourrait dire ça. Justement, Rashi te dit, je ne suis pas un rabbin de Halakha. Bien que Rashi va commenter énormément la Halakha. Mais Rashi te dit, si j'avais voulu faire un livre de Halakha, la Torah aurait dû commencer par Chodesh Adelachem Rosh Chodashim, qui est la première mitzvah. Mais non, toute la Torah, elle est pour montrer la légitimité et le lien que nous avons avec la terre d'Israël. Ça a l'air donc, Rashi, pour toutes ces raisons, il est véritablement central dans la transmission de la Torah du Sod. Mais ce qui est tellement fou, c'est que pour lui, c'est une Torah du Sod qui ne paraît pas du tout Sod. C'est-à-dire que personne n'a remis en cause la légitimité de Rashi. C'est assez incroyable. Alors qu'il utilise le Torah, le Sod toute la journée, personne, aucun rabbin qui était opposé au Sod, eh bien, n'a remis en cause la légitimité de Rashi. Pourquoi ? Parce que Rashi met le Sod dans le pshat, dans la vie. Alors, évidemment, il y a beaucoup de légendes quant à la naissance de Rachi. C'est toujours comme ça avec les personnages extraordinaires. Il y a plein de légendes qui entourent leur réalité, puisque, eh bien, on va connaître l'histoire de Troie où, eh bien, la mère de Rachi, lorsqu'elle était enceinte, elle marchait dans la rue et il y a un cavalier qui est venu et qui courait au galop. Au galop et qui a failli la renverser. Attendez, pourquoi je suis en train de vous tourner le dos? C'est pas parce que j'ai pas envie de vous regarder, c'est parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et évidemment, j'aurais pu, si j'avais été intelligent, j'aurais pu préparer en avant. Aïe, aïe, aïe. Nous, effoser. Ça faisait le pot, ça nous va effoser. Bon, c'est pas grave. Très bizarre. Quelqu'un m'a pris ma BD sur Rachi. C'est un scandale. C'est une catastrophe. Bon, en tout cas, j'ai une BD sur Rachi. Et on nous montre là-bas le cavalier partant au galop. Et c'est une rue étroite. La mère de Rachi se dit, oh non, Shma Israël! Et elle se colle au mur, mais elle sent bien que ça ne va pas suffire. Et le cavalier passe, et elle n'a rien. Et quand elle essaie de comprendre ce qui se passe, elle a vu que le mur vient de se renfoncer sur lui-même pour lui permettre d'être sauvée. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on va montrer dans les rues de Troie ce renfoncement dans le mur qui a sauvé Maman Rachid. Incroyable. Tov, nounou. Mazé Khachoum. Mazé Khachoum. Zélor Khachoum. Ce qui est oui Khachoum, c'est que il semblerait que dans la tradition juive, il fallait que Rachi naisse. C'est en ça que l'histoire est importante. Il faut qu'il y ait un bonhomme comme Rachi qui arrive dans l'histoire juive. Alors Rachi, il ne s'arrête pas à lui-même. Rachid n'aura pas de fils, mais il aura des filles, qu'on appelle communément Benot Rachid. Alors, il y a une Agada, il y a une légende qui dirait que les filles de Rachid mettaient les tfilines. Alors, je dis que c'est une Agada parce que nous n'avons aucune preuve de ça. C'est-à-dire qu'aucun texte ne nous permet de corroborer cette légende que les filles de Rachi, elles mettaient les tfilines. Shumdavar. La seule personne féminine dont on a une preuve textuelle qu'elle a mis les tfilines, c'était Michal, la fille de Shaoul. C'est marqué dans la Guémara, noir sur blanc. Mais Dafka, justement là-bas, ni Rachi, ni les Tosafot ne parlent de leur maman ou de leur fille comme étant quelqu'un qui mettait les tefilines. On ne sait pas si les filles de Rachid Bémet mettaient les tefilines ou pas. Lo kol kach hachouv. Vous savez bien de toute façon que d'après la halakha, est-ce qu'une femme a le droit de mettre les tefilines aujourd'hui? Quelle est la réponse? Alors, on a eu du comme ça, mais personne n'a dit oui. Hein, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'une femme a le droit de mettre les tefilines? Une femme n'est pas tenue de mettre les tefilines, ça vous le savez. C'est une mitzvah qui dépend du temps, donc une femme n'est pas tenue de mettre les tefilines. Mais est-ce qu'on a une interdiction de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire? La réponse est non. On n'a pas d'interdiction de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé. Donc, au niveau des femmes qui mettent les tefilines, la réponse n'est pas de savoir est-ce que les femmes ont le droit de mettre les tefilines ou pas. La question est de savoir pourquoi tu veux les mettre. Parce que techniquement, bien sûr qu'une femme a le droit de mettre les tefilines. Mais si elle met les tefilines parce qu'elle a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et qu'elle a tellement étudié sur le sujet des tefilines, elle comprend à quel point c'est quelque chose de fantastique, et pour ne pas embêter personne, et pour son lien, elle, avec Dieu, eh bien, dans sa chambre, toute seule, elle met ses tefilines. C'est pas ça, d'ailleurs. Mais si elle met les tefilines parce qu'elle a des réminiscences féministes et qu'elle a envie d'en faire une grande manifestation pour dire mais les hommes et les femmes doivent être des égaux et que donc on peut mettre les tefilines et qu'il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas mettre les tefilines, alors c'est assaut. Maaseh she'aya kachaya. Hier, ma femme a été invitée par une amie à elle à participer à une tfila de femmes où l'amie en question fêtait ses 50 ans et pour ses 50 ans a décidé de lire la paracha. Et donc, ils ont organisé une tfila de femmes et c'est cette dame qui a lu la paracha. Que de femmes. Et elle m'a demandé est-ce que Zébéceder ou pas? Et j'ai répondu que si cette femme, elle fait ça parce qu'elle veut se la péter ou parce qu'elle a envie de se faire un petit kiff de 50 ans, c'est la crise de la cinquantaine, et qu'elle a besoin de le montrer à tout le monde, alors c'est un problème. C'est pas shoot. Mais si c'est pour donner une possibilité à des femmes de entendre la lecture de la Torah, qu'elles n'auraient pas osé y aller à la synagogue, je ne sais pas pourquoi, ou alors parce qu'elle veut montrer que les femmes peuvent étudier la Torah, ou alors elle veut tout simplement, je ne sais pas. Alors, faut voir. Toute la question est de savoir d'où ça vient. Enfin, bon, tout ça pour dire que les filles de Rachi, on ne sait pas si elles ont mis les tefilines ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont eu des enfants. Les filles de Rachi ont eu des fils. Et ça, c'est important. Puisque quand on parle de Beth Midrasho shel Rashi, on ne peut pas ne pas mentionner la suite de Rashi. Et qui est la suite de Rashi? Eh bien, ce sont les Baalei HaTosafot. Alors, Baalei HaTosafot, c'est un nom qui regroupe 200 ans. Puisque le dernier des Tosafot, c'est Rabbeinu Asher Berabbi Yechiel, Rabbeinu Arosh, déjà en 1350. Donc on est vraiment loin après. Mais on commence avec la famille proche de Rashi. Les élèves de Rashi sont en grande partie sa famille, mais pas que. Pas que. Et donc je voudrais d'abord parler d'un de ses plus grands élèves qui n'est pas de sa famille. Il s'appelle Rabbeinu Simcha Mivitri. Efosé Vitri. Efosé Vitri. Judéa. Quelqu'un a une idée? Non?
Je vous rappelle que les micros sont éteints, Ravin.
Ouais,
Donc,
c'est vrai,
pas les
c'est
miens.
vrai, c'est vrai. J'avoue, c'est ma faute.
Excusez-moi, hein. C'est pas
C'est
de leur
ma faute,
faute,
c'est ma
c'est de la
faute.
mienne. Voilà.
Pas de problème. Alors, je ne vous demanderai plus où sont les choses. Mais quand même, Vitry le François. Oui, les amis, Vitry le François, c'est une petite bourgade qui est alors à combien exactement? J'essaie de vous donner exactement le kilométrage par rapport à Paris. Bon, c'est juste à côté de Saint-Étienne. OK? En termes de géographie. Donc, Vitry-le-François, eh bien, c'est de là que vient Rabbeinu Simcha Mivitry. Et Rabbeinu Simcha Mivitry a écrit un livre qui est fantastique parce que c'est pas de lui, enfin c'est lui, mais il n'a rien mis dedans. Il a tout simplement ramené dans son livre toutes les minagim et les psakim de Rashi. Donc il a un livre qu'on appelle le Marzor Vitri, Et Marzor Vitri, ce n'est pas un Marzor pour faire la tfila, mais c'est un recueil de toutes les minagim et les anagotes de Rashi. Et donc, quand tu regardes les anagotes de Marzor Vitri, c'est uniquement Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah. Je vous donne un exemple. Il y a marqué dans Marzor Vitri une phrase magnifique qui est complètement Torah Tassod. Écoutez bien. Na'agu la'asot teshuva be'aseret yemet teshuva. On a pris l'habitude de faire teshuva pendant les 10 jours de teshuva. Ma, mais oui, il reprend l'enseignement de la Kabbalah qui nous enseigne quelque chose de fondamental, c'est que les jours de teshuva entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim sont des jours de teshuva avant qu'un Israël décide de faire teshuva. Sont les jours où la terre revient sur elle-même, sont les jours où le monde fait teshuva. Sont les 10 jours qui séparent l'année solaire de l'année lunaire. Donc nous dit Rabbeinu Simcha Mivitri, Rashi nous a expliqué que puisque ce sont des jours de tshuva cosmiques, tels que Dieu les a prévus, eh bien nous on a décidé de faire tshuva aussi en même temps. Ouais, par exemple, c'est un petit exemple. Donc Rabbeinu Simcha Kohen Mivitri, c'est un des grands élèves de Rashi, mais pas que. Il y a un autre élève fondamental qui n'est autre que son petit-fils. Et là, on est obligé de mettre en parallèle deux de ses petits-fils qui sont tous les deux frangins, mais qui s'opposent complètement. Vous imaginez les repas de famille. Le premier s'appelle Arashbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir. Mais on ne va pas parler de lui. Vous savez pourquoi on ne va pas parler de lui ? Pour une raison très simple. On ne peut pas parler du Rashbam dans notre cours à nous, parce que notre cours à nous, c'est un cours de Kabbalah, l'histoire de la Kabbalah. Or, le Rashbam, il n'y a pas plus anti-Kabbalah que lui. Alors, attention, je m'entends bien, anti-Kabbalah, attention. Ce n'est pas qu'il était contre, mais sa façon à lui de commenter la Torah, c'est le pshat tel que nous on l'entend. C'est-à-dire l'explication rationnelle et littérale du texte. Par exemple, il y a une grande machloquette entre le Rashbam et Papi Rashi. À savoir, qui a vendu Yosef ? Rashi nous dit que c'est les frères de Yosef. Le Rashbam nous dit, mais enfin papy, tu vois bien que c'est marqué dans le texte que ce sont les Midianim. Ce ne sont pas les frères de Yosef. Rashi dit que c'est les frères de Yosef. Pourquoi ? Pas parce que littéralement c'est les frères de Yosef, mais parce que le fait que les frères de Yosef aient voulu vendre Yosef est suffisamment grave pour qu'on leur rejette la faute dessus. Rashbam, il te dit, ouais, mais d'accord, mais concrètement, ce n'est pas eux. Donc, pour Rashbam, il y a une dimension de rationalisation du verset. Ce n'est absolument pas la chita de son petit frère. Et son petit frère, c'est l'autre personnage que nous devons absolument aborder aujourd'hui. Il s'appelle Rabbeinu Yaakov Ben Meir, plus connu sous le nom Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu Tam, lui, il va complètement embrasser le pas de Rashi et il est parmi les plus pnimis de tous les commentateurs ashkénazes du Moyen-Âge. Alors Rabbeinu Tam, aussi, il a une quantité astronomique de commentaires, mais Rabbeinu Tam, c'est quelqu'un qui va aller au niveau du Sod, pratiquement dans toutes ses explications. À tel point, pourquoi attendre Rashi et Rabbeinu Tam pour avoir une machloquette sur les Tefilim ? On faisait comment avant ? Attends, je n'ai même pas dit qu'il y avait une machloquette sur les Tefilim entre Rashi et Rabbeinu Tam. Tout de suite, tu... comme ça ? Eh ben alors, puisque tu as posé la question, je vais te répondre. La machloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, elle ne date pas de Rashi et Rabbeinu Tam. elle est marquée déjà dans la Gemara, dans Masechet Menachot. Donc, ce n'est pas une machloket Rashi Rabbeinu Tam. C'est une machloket déjà entre Abaye et Rava. C'est déjà une machloket dans le Talmud. Maintenant, Rashi et Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce qu'on a dit c'est leur machloket à eux? Parce que tout simplement, ils en ont fait un combat. Ils ont pris position chacun et ils en ont sorti une halakha le maaseh. C'est-à-dire que Rashi, il lui met les tefilines, Rashi, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam. La vraie question, c'est la mère de Rabbeinu Tam, qui est la fille de Rashi, d'après la légende qu'on a dit qu'elle mettait les tefilines, est-ce qu'elle mettait les tefilines de son père ou de son fils? Ah, grande question, je ne me permettrai pas de répondre. Donc non, ce n'est pas une machloket entre Rashi et Rabbeinu Tam. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le Talmud, on va nous dire qu'il y a Bamakom shel anachat tefilin shel rosh, makom leshtei tefilin. C'est-à-dire que tu as suffisamment de place à l'endroit où tu dois mettre les tefilines pour en mettre deux. Comme si on venait te dire que les deux avis qui vont devenir celui de Rashi Rabbeinu Tam ont leur place. Si bien qu'aujourd'hui, à Al-Piasod, on met les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Enfin, on met. Ceux qui mettent les tefilines de Rabbeinu Tam n'ont pas le droit de le faire savoir aux autres. De la même façon qu'une femme, elle n'a pas le droit de montrer en public qu'elle met les tefilines, un homme n'a pas le droit de montrer en public qu'il met les tefilines de Rabbeinu Tam. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose de midat chassidut, de faire en plus que ce qui n'est pas obligatoire, tu n'as pas le droit de le montrer en public. Mais en réalité, il y a encore plein d'autres chitotes. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu vois que la Shgacha Eliona, elle n'a gardé que la chita de Rashi et de Rabbeinu Tam, qui montre justement que c'était leur combat. Justement parce qu'il y a d'autres chitotes, mais qui n'ont pas été... Oui, on cache celui de Rabbeinu Tam. Oui, évidemment, bah, c'est on cache. Tu le mets chez toi à la maison. Donc, comme tu le mets chez toi à la maison, personne ne va voir. Donc, si tu veux, le fait qu'il y ait eu d'autres chitotes, évidemment, mais elles n'ont pas été retenues dans la tradition juive, ça montre que c'est eux qui ont relevé le défi des téfilines. Bichlal, si on parle des téfilines, vous savez, dans la famille, c'est compliqué parce que le Rashbam, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais le Rashbam, lui, il dit qu'il n'y a pas marqué dans la Torah qu'on doit mettre les téfilines. Comment ça ? Vayu le totafot ben enecha ou le zika, vayu le totafot ולהעלות על ידיך ולתותפות בין עיניך, וזיכרון בין עיניך. Alors quoi? Il n'y a pas marqué les tefilines? Eh bien, nous dit le Rashbam, non. Totafot ben enecha, ou le zikaron ben enecha, ça veut dire que ça doit être tel un bijou. Totafet, c'est un bijou. Donc, de la même façon qu'un bijou, il est toujours sur la tête des femmes, et elles y pensent toujours, eh bien, l'homme, il doit toujours penser à l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais je vous rassure, Rabbeinu Arashbam, il mettait les tefilines. Mais d'où ça vient qu'il mettait les tefilines? Pour lui, c'était Torah Shebealpé. C'est une mitzvah, mais elle n'est pas marquée dans la Torah, c'est Torah Shebealpé. Et gam zman motzei Shabbat, yeshenu agim le Rabbeinu Tam. Bien sûr, mais nous, là, tu me parles des choses les plus connues, qui sont le Shabbat de Rabbeinu Tam, les tefilines de Rabbeinu Tam. Mais encore une fois, bon, Shabbat de Rabbeinu Tam, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de le faire en cachette. Pourquoi? Parce que tu as le droit, d'après la halakha, de faire Tosefet Shabbat. Donc, comme tu as le droit, d'après la halakha, de rajouter ton Shabbat, donc tu n'es pas obligé de te cacher quand tu veux faire sortir Shabbat plus tard. Mais effectivement, pourquoi Rabbeinu Tam, il fait rentrer sortir Shabbat plus tard? Parce qu'il fait sortir Shabbat d'un point de vue Al-Piyasod, où il ne s'agit pas du moment où la nuit est tombée, mais au moment où la nuit est véritablement impactante sur l'être humain. Et pour ça, il a un calcul à Al-Piyasod. Donc, vous voyez que Rabbeinu Tam va être quelqu'un qui est le successeur véritable du Beit Hamidrash de Rashi. D'ailleurs, Rashi avait un métier. C'était quoi son métier ? Ben, il faisait du vin. Vigneron. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a inventé le champagne? Lui qui habitait à Troyes en Champagne, non, c'est pas lui. Mais il faisait du vin. Rabbeinu Tam, lui, il avait un autre métier. Un métier très, très peu, comment dire, très, très atypique. Puisque Rabbeinu Tam était usurier. Eh oui, alors évidemment pas pour les juifs, pour les goïms. Bien sûr, il prêtait à intérêt. Et il y a même, dans le Talmud, à un moment donné où Rabbeinu Tam écrit qu'il a du mal avec la sugya et que jouer avec ses pièces d'or, ça lui permet de se concentrer. Picsou. C'est ça. Rabbeinu Tam, tu ne le vois pas vraiment comme un mec qui est là sur sa table avec des pièces d'or et qui joue. Mais elle m'a la saute. Donc, Rashi et Rabbeinu Tam, c'est l'enseignement du Sod qui doit rentrer dans la vie de tous les jours. Ça va être les derniers qui vont ensemble mettre la Halakha et la Haggadah dans l'enseignement pour le monde général. À partir de Rashi et Rabbeinu Tam, il va y avoir une séparation. Et même les Mekoubalim vont d'un côté parler de Kabbalah et de l'autre côté parler de Halakha. Oui, David.
Arav, toutes les mitzvot qui sont considérées comme chassid, elles doivent être cachées?
Par définition, une mitzvah, ce n'est pas midat chassidut. Par définition, une mitzvah, c'est obligatoire. Par contre, si tu décides que la mitzvah, tu ne la fais pas en mode halakha, mais tu la fais en mode en plus, c'est-à-dire tu rajoutes des choses, alors tu dois le faire caché. Sauf, si là où tu habites, tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, alors il n'y a plus besoin de se cacher. Il y a, au niveau de l'enseignement de la Kabbalah, c'est pareil, tu n'as pas le droit de sortir tes tzitzit. Pourquoi tu n'as pas le droit de sortir des tzitzit? Eh bien parce qu'il n'y a pas besoin de mettre les tzitzit. Normalement, d'après la halakha, si tu as un habit à quatre coins, alors tu lui mets des tzitzit. Mais si tu n'as pas d'habit à quatre coins, tu n'es pas obligé de mettre un habit à quatre coins. Donc si toi, tu te mets un habit à quatre coins, c'est très bien, kol hakavod, mais c'est midat chassidut. Donc, tu ne dois pas le montrer à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle Yuara. En français, je me la pète. Mais écrit le Mishnah Brura, dit oui, mais chez nous, tout le monde l'aimait. Donc, si tout le monde l'aimait, c'est plus je me la pète. Et il y a une autre explication aujourd'hui qui te dit si ça t'aide à te renforcer dans ta Yirat Shamaim, de sortir les tzitzit et de les voir, alors Zebesed. Aujourd'hui, où l'enseignement de la Kabbalah se démocratise, pourquoi encore caché? Non, ce n'est pas une question d'enseignement de Kabbalah ou pas. Ce n'est pas ça. C'est, il y a un niveau qui est celui de la halakha, et il y a un niveau qui est au-dessus. Si tu décides de prendre sur toi de faire au-dessus de ce qu'on demande aux gens, kol hakavod lecha, mais tu ne peux pas le montrer parce qu'après, ça va devenir une norme que tu voudras peut-être imposer aux autres, surtout si tu es quelqu'un qui a une influence. Tu es le rabbin, tu es truc. Donc, les gens, ils regardent ce que tu fais et ils vont penser que ce que tu fais, c'est la halakha. Ben non, ça ne l'est pas. Mais si tu es arrivé avec ta communauté à faire un travail et tout et que finalement, tout le monde dans la communauté s'est élevé à Rabbeinu Tam, au tefillin de Rabbeinu Tam, et tout le monde l'aimait, alors OK, tout le monde l'aimait. Ok, on n'a pas le droit de rajouter. Non, toi, tu fais référence à la mitzvah de Baal Tosif. Baal Tosif, on n'a pas le droit de rajouter quelque chose qui n'existe pas. Là, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des avis qui sont déjà des avis, mais qui n'ont pas été nifsakim la halakha. Donc, ce n'est pas que tu rajoutes quelque chose qui n'existe pas. C'est juste que tu as envie de faire toutes les avis, toutes les chitotes pour être le plus... on va dire le plus connecté. Mais encore une fois, la halakha, t'as pas obligé.
Alors, il y a une question de Gabriel Lévy.
Oui, à ce sujet, Rav, comment appliquer cette sugya, ce principe plutôt à la sugya de la cacheroute pour les gens qui mangent, par exemple, badats, et certains mangent rabanout, etc.
C'est exactement pareil. Ce que tu fais dans ton frigo, c'est ton frigo, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'imposer tes khumrot aux autres.
D'accord.
Non, deux secondes. Tout n'est pas khumra. Il faut étudier aussi un petit peu une khumra kashrout, parce que des fois, tu as l'impression que c'est une khumra, ça ne l'est pas. Par exemple, les sfaradim, je me reprends, les gens qui suivent le Shulchan Aruch, on va dire la majorité des Edot HaMizrach et une grande partie des sfaradim, pour eux, Bassar Khalak, ce n'est pas une khumra, c'est une obligation. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, si ça ne l'est pas et que tu décides de le faire quand même, très bien, mais tu ne peux pas l'imposer aux autres.
D'accord.
C'est petit le sujet de la cache-route.
Je peux poser une question ?
Juste. Bon, ok.
Je peux poser une question. Pourquoi il s'appelle Tam ?
Pourquoi il s'appelle Rabbeinu Tam ?
Tam.
Mazal. Tam, ça veut dire Shalem.
Oui, mais d'où vient ce nom ?
Ah, c'est un nom qui a été donné plus tard. C'est justement suite à la complétude de son enseignement, on s'est habitué à l'appeler à Tam, à Shalem.
Il n'y a aucun
Chacham qui a... Et parce que, effectivement, tu as raison, parce qu'il s'appelle aussi Rabbeinu Yaakov, et que Yaakov, il était appelé Ishtam Yoshev Oalim.
Alors, question de Yoshev.
Oui.
Je veux vous remercier, Rav. Et est-ce que nous savons aujourd'hui quelles étaient les sources kabbalistiques de Rachid?
Ben oui, elles étaient l'enseignement de la Kabbalah de toutes les générations qui ont transité par Rabbeinu Gershon, qui ont transité par son père, qui ont transité avant lui par les Géonim. On voit un retsef, une véritable succession de la transmission. Il n'y avait pas de source écrite, c'est-à-dire que Rachid n'a pas étudié un livre de Kabbalah X ou Y, mais ça se transmettait de rav à élève.
Alors, ce sens-là. Et d'où on le sait ?
Bah, on regarde ce qu'il écrit. Il y a un grand principe que j'ai reçu.
Il écrit qu'il fait référence à Mekoubalim ?
Non, comment il n'écrit pas qu'il fait référence au Mekoubalim. Pas chaud ce qu'il écrit. Quand on étudie, ben, on se rend compte que c'est l'enseignement de Torah ta Kabbalah. Encore une fois, quand on veut savoir ce que dit telle ou telle personne, ben on lit ce que dit telle ou telle personne. Et quand tu lis l'enseignement de Rashi, tu vois qu'il y a des choses qui viennent directement de la halakha, ça se voit, ça se lit, et il y a des choses qui viennent d'autre part.
Quelle différence y a-t-il entre les téflines de Rashi et de Rabbeinu Tam ?
C'est l'ordre des parachiotes telles qu'elles sont placées dans les téflines de la tête.
Alors, question de Yaakov Zerbib.
Moi, ma question, elle est liée à c'est la question des deux questions précédentes. C'est par rapport au fait qu'on a dit que Rachid a une tradition donc de Kabbalah. Et je sais que dans le monde de la halakha, il y a une différence entre le monde sfarad, je vais dire, du Rambam, de l'époque Rif Rambam, et le monde ashkenaz avec Rachid, justement, qui a reçu de Rabbeinu Gershom. Et l'une des différences, on va dire, concrètes, c'est parce que ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait eu quand même... il y a une certaine coupure entre la Torah des Géonim et les Rishonim chez les Ashkenaz à cause du fait que c'était domination chrétienne et que c'était coupé du monde musulman, si j'ai bien compris. Je sais que chez le Rif Rambam, il n'y avait pas cette coupure. Est-ce que ça influe justement dans cette transmission de Kabbalah qui pourrait peut-être y avoir des différences entre le monde du Rambam Rif et Jirachi?
Alors, tu poses deux questions en fait. Tu dis quelle est la légitimité de la succession au niveau de la halakha chez les Ashkenazim, parce qu'il y aurait une coupure entre le monde des Géonim et la légitimité de la succession au niveau de la Kabbalah. J'avoue que j'ai déjà entendu ça souvent, je n'arrive pas à comprendre sur quoi ça se base. Pourquoi ? Parce que le Rif, autant que je sache, il n'était pas à Babylone.
C'est-à-dire que... Géonim, non, il y a eu des itkatvuyot. Ils sont
écrits. Vadaï, il y a eu des itkatvuyot. Kmo shayu itkatvuyot avec Rabbeinu Gershom.
Oui, Rabbeinu Gershom lui-même, oui, c'est vrai.
Donc, ça veut dire que de la même façon que la génération du Xe siècle qui ont reçu chez les Sfaradim, que ce soit le Rif ou que ce soit Rabbi Shmuel Nagid, on a parlé la semaine dernière, il y avait, on voyait une connexion avec les derniers des Géonim, mais il y avait aussi cette connexion avec les derniers des Géonim dans le monde Ashkenaz. Des fois, ça a transité par l'Italie. Il y a des Chachmé Italia qui étaient aussi dans l'histoire. Et comme on a vu le Rav de Rabbeinu Gershon, Rabbeinu Leontin, qui lui était en 8-4 voûtes, Pshuta, avec Rabbeinu Haigaon. Donc, il y avait aussi cette transmission-là. Ce n'est pas vrai que ça a été brisé parce que l'un était dans le monde chrétien et l'autre était dans le monde musulman. Donc, le Da'ati, c'est l'homme article Maïm, si pour Azé, parce que ça ne s'est pas passé. Quoi. Il y avait un Retsef. Maintenant, peut-être qu'il y avait plus de contacts dans le monde arabe. Mais bon, voilà.
J'allais dire par rapport au Lacha, par rapport à tout le monde du Talmud, où on voit tout le temps que Rachim est. Kara Garcina, Harry Garcina, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait bien une comparaison des versions, ce qui.
Mais il y a eu aussi. Mais attention, dans le Rif, il y a aussi plein de Shinui et Girsaot.
En général.
Quand tu regardes le Rambam, dans le Rambam, on a retrouvé dans la Gnisa à Kairit, on a retrouvé des Kitveyat du Rambam, où il écrit qu'il a vu des Girsaot du Talmud, dans lesquels il est Cholek. Sur le Talmud qu'il a à Beyamav. Il dit, comment c'est possible? Ben, il y avait Shinui et Girsaot. On n'est pas né d'hier. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des Girsaot, Kachav, Kachav, Kachav. Macheken, Dafka, chez les Talmud et Rashi, ça ne marche pas, ton histoire. Parce que Rabbeinu Tam, il se bat contre son frère qui a tendance à faire des Hagaot et des Shinui et Girsaot à chaque fois qu'il n'est pas d'accord. Rabbeinu Tam, il dit, on n'a pas le droit de faire ça. On doit garder la Girsa du Talmud. Donc, vraiment, chez Dafka, chez Rabbeinu Tam, Talmido chez le Rashi, tu vois qu'il y a cette fidélité à la Girsa originelle du Talmud. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même du chibouche? C'est sûr qu'il y en a eu. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un Retsef plus grand chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim. Macheken, là où il y a une grande différence, mais on n'en parle pas parce qu'ici, ce n'est pas un cours sur Toldot à Halakha, mais il y a une énorme différence entre Shitat al-Limud al-Ilkhati dans le monde séfarad, qui était Shitati, qui était ordonné, et le monde de l'étude de la Halakha chez les Ashkenazim, qui était complètement fouillis.
Ah.
Mais ça, c'est dans la Halakha.